franceinter.fr.
Le journal, Yves Decamp, bonjour.
Un nouveau plan d'action contre la radicalisation, le troisième en quatre ans. Le Premier ministre a présenté tout à l'heure une soixantaine de mesures, tous azimuts, mobilisant l'école, les travailleurs sociaux, les prisons, pour mieux répondre aux tentations violentes de certains jeunes. Invité du journal, Fethi Benslama, psychanalyste, professeur à Paris Diderot. Réformer l'Europe et en priorité ses institutions. Emmanuel Macron veut vendre son projet européen aux 26 partenaires qui ont rendez-vous tout à l'heure à Bruxelles, mais plus facile à dire qu'à faire. Ouvrir les allocations chômage. Hommage aux démissionnaires, la mesure fait partie de l'accord conclu hier soir par les partenaires sociaux, qui ont fait un pas également vers un contrôle renforcé des contrats courts, une réforme de l'assurance chômage que le gouvernement pourrait reprendre à son compte. Dans ce journal également des nouvelles, évidemment, de Martin Fourcade et des relayeurs français du biathlon, dont le départ a été donné il y a trois quarts d'heure. Richard Vivion, mais les Français sont loin, ça va être compliqué.
Très très compliqué puisque pour l'instant les Français occupent la 9e place avec 1 minute et 39 secondes de retard sur la République tchèque qui mène, et Martin Fourcade vient à l'instant même de terminer son premier tir couché avec une erreur.
À tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Quel est l'ancêtre des chevaux d'aujourd'hui? Les chercheurs pensaient le trouver au Kazakhstan où le cheval de Botaï avait été domestiqué il y a plus de 5000 ans, mais l'ADN a parlé. Les chercheurs vont donc devoir chercher encore. La météo, bonjour Jean-Pierre Hameau.
Bonjour Yves.
Un temps froid et sec, ensoleillé mais nuageux dans le sud-est.
Absolument, l'anticyclone Moscou-Paris marque le retour d'un temps froid, sec et bien ensoleillé des frontières du nord aux côtes atlantiques. En revanche, une dépression méditerranéenne organise des remontées nuageuses et instables de la Corse à l'est de la région PACA. À noter des chutes de neige à partir de 800 mètres au-dessus de la montagne Corse et des averses de pluie en Provence. Et puis les températures maximales sous abri afficheront 2 à 5 degrés dans un grand quart nord-est, 6 à 8 ailleurs et jusqu'à 12 degrés autour de la Grande Bleue.
Le bulletin météo complet en fin de journal.
France Inter.
Le troisième plan, en moins de 4 ans, le Premier ministre Édouard Philippe a donc présenté à Lille tout à l'heure une nouvelle série de mesures contre la radicalisation djihadiste. Après les plans Hollande 2014 et 2016, 3 ans après les attentats de janvier 2015, les pouvoirs publics veulent élargir l'arsenal des réponses tous azimuts, en prévision notamment des retours de Syrie où de nombreux jeunes Français étaient partis se battre. Aujourd'hui, près de 20 000 personnes, dont près d'un quart sont des femmes, sont recensées au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation. Alors que peut-on faire de plus qui n'a pas encore été imaginé? Eh bien beaucoup de choses encore dans tous les secteurs, dans la formation des enseignants et des travailleurs sociaux, dans la mise au point des contre-discours à opposer à l'école ou sur le net aux propagandes islamistes, dans la prise en charge des radicalisés également. En tout, Sophie Parmentier, une soixantaine de pistes évoquées tout à l'heure par Édouard Philippe.
Oui, exactement, une soixantaine de mesures qui viennent d'être dévoilées par le Premier ministre, qui a parlé d'une radicalisation qui menace notre société, une radicalisation qui nous défie, a-t-il dit. Et ce plan balaie à dessein des champs plus larges, a expliqué Édouard Philippe, l'école, l'université, les services publics, le monde des sports. Édouard Philippe a d'abord insisté aujourd'hui sur l'école et la jeunesse, où il faut absolument que la connaissance rejette l'obscurantisme. Un exercice de réflexion critique face à l'information va être désormais systématisé pour se prémunir des théories complotistes. Et puis le Premier ministre a rappelé le rôle viral d'Internet. Il a aussi expliqué qu'il venait de signer ce matin une circulaire permettant désormais d'écarter des fonctionnaires radicalisés dans certains domaines, dans le domaine de la sécurité. Jusqu'alors, l'éviction ne pouvait avoir lieu principalement qu'avant l'entrée dans la fonction publique. Et puis, parmi les autres mesures majeures annoncées tout à l'heure, un suivi psychologique encore plus poussé. Pour les 68 mineurs rentrés de Syrie, les trois quarts ont moins de 8 ans, des états généraux sur la psychiatrie et la radicalisation auront d'ailleurs lieu dans quelques mois. Enfin, dernier point, en ce qui concerne les détenus poursuivis pour des affaires de terrorisme ou jugés radicalisés, 1500 places vont être dédiées dans les prisons, dans des quartiers totalement étanches, où ils seront peu à peu regroupés avec 3 nouveaux quartiers de prise en charge de la radicalisation. Enfin, pour des revenants de Syrie placés sous contrôle judiciaire, des centres de jour seront développés à Marseille, Lyon et Lille, sur le modèle de celui qui existe déjà à Paris.
Sophie Parmentier à Lille avec Olivia branchés. Le détail de ces mesures anti-radicalisation sur franceinter.fr. Réaction du porte-parole du Front National, Sébastien Chenu, pour qui le gouvernement s'attaque à ce problème énorme avec une cuillère à café trouée et des moyens extrêmement faibles. Pour lui, député Front National du Nord, il faut d'abord s'attaquer au business de la déradicalisation, à tous ces millions d'euros donnés à des associations qui ne produisent, dit-il, aucun résultat. Invité de ce journal, Fethi Benslama, psychanalyste enseignant à l'université Paris Diderot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur notamment d'un livre intitulé « Furieux désir de sacrifice » paru au Seuil en 2016. Alors toutes ces mesures transversales qui vont de l'école à la prison, c'est la bonne idée ? C'est un travail de fond qui sera payant ?
Ben, je crois que là, je dois dire que nous avons un plan qui est d'envergure, qui fait un saut qualitatif par rapport au plan précédent. Et il attaque la question de la radicalisation par plusieurs angles. On a la santé, l'éducation, la justice, la recherche. Et là, on a quelque chose qui est assez remarquablement fait. Moi, je n'ai pas participé à ce plan, à son élaboration, donc je parle vraiment dans une position extérieure. C'est très facile de critiquer les plans de radicalisation. C'est très facile parce que chacun peut dire, voilà, il faut faire ceci ou cela. Mais c'est très compliqué, la radicalisation. Ce n'est pas quelque chose d'aussi simple que cela.
La preuve, Fethi Benslama, on avait voulu créer des centres de déradicalisation, comme celui qui avait été ouvert en Indre et Loire, à Pontourny. Il était quasiment resté vide.
Oui, parce que on a choisi à ce moment-là, c'est politiquement hein, à l'époque, de recruter des volontaires. Or, ça n'a pas pu marcher. Il y a personne qui va dire je suis radicalisé, venez me sortir de la radicalisation. Ça n'existe pas. Ce qu'il faut dire par rapport à ce plan, c'est que après c'est la question des moyens et de la mise en œuvre de ce plan, parce que c'est un plan d'envergure. Ça nécessite des moyens. Et ça, on sera dans l'attente de voir qu'est-ce qu'on va mettre en face. Et il y a un problème très important qui est abordé dans ce plan, mais très rapidement, c'est l'évaluation de ce qu'on fait. Parce que c'est bien de mettre en œuvre des actions, mais il faut savoir ce qui résulte de ces actions. Et là, je crois qu'il faut maintenant s'intéresser à ce problème-là. On donne à des gens, des acteurs, qu'il faut d'ailleurs mieux choisir des acteurs qualifiés qui travaillent avec la radicalisation, mais ensuite il faut évaluer le travail qui est fait. Et ça va être une des choses les plus importantes, à mon avis, qu'on doit prendre en considération, et on doit mettre ces dispositifs d'évaluation de ce qui a été fait pour en tirer les conséquences.
Oui. D'autant que le terroriste amateur en herbe n'a pas de, il n'y a pas de profil type. Hein, il y a plusieurs types de personnes, plusieurs groupes.
Bien sûr, il y a pas de profil type. Il n'y a pas. Il y a une autre chose par rapport à ce que j'ai entendu tout à l'heure de la réaction du représentant du Front National. On a un plan de traitement civil de la radicalisation. Il y a le traitement policier, militaire, etc., bien sûr, mais ce plan s'intéresse plutôt au traitement, ce qu'on peut appeler le traitement civil. C'est autre chose. Il faut les deux, bien sûr.
Et
il
vous
faut les services de renseignement, de police, etc. Mais là, c'est de la prévention.
Et vous, en tant que psychanalyste, psychothérapeute, vous contestez le fait que les radicalisés soient victimes de troubles mentaux, comme l'avait dit il y a quelque temps le ministre de l'Intérieur ?
Il a dit qu'il est le tiers.
Le tiers,
je ne sais pas d'où ça vient. Ces données, on n'a pas les moyens de les vérifier. Il faut justement ouvrir les bases de données aux chercheurs. Ce qui est d'ailleurs prévu, c'est intéressant, il est prévu que le fichier des radicalisés puisse être ouvert, puisse s'ouvrir aux chercheurs. Et ça, c'est vraiment très important. C'est comme ça qu'on peut savoir de quoi il en retourne. Dire le tiers qui ont des troubles psychologiques, c'est une évaluation assez, elle n'a pas été faite par des chercheurs et des gens qui savent de quoi il en retourne lorsqu'on parle de troubles psychologiques.
Fethi Ben Slama, psychanalyste, enseignant à l'Université Paris Diderot. Je rappelle votre livre, Un furieux désir de sacrifice, sous-titré Le surmusulman, paru au Seuil. Merci beaucoup. Un vrai progrès pour le G5 Sahel à Bruxelles. L'Union européenne annonce qu'elle va doubler son soutien financier à cette force militaire conjointe des cinq pays qui sont en première ligne face aux groupes terroristes. Une aide supplémentaire que la France appelait de ses voeux. À ce stade, l'Union européenne qui s'était engagée en juillet à hauteur de 50 millions en rajoute 50 de plus. Les cinq pays du front 10 millions chacun et la France 9. La France qui ne lâchera rien, répète Emmanuel Macron, qui rend hommage aux soldats français tombés au Mali où deux ont encore été tués mercredi emportés par une mine.
Ces deux morts français viennent après plusieurs opérations fortes que nous avons menées sur le sol malien qui ont conduit à plus d'une trentaine de victimes du côté des terroristes. Et nous continuerons à mener l'offensive aux côtés des forces du G5 Sahel pour éradiquer justement le terrorisme djihadiste dans toute la région. La conférence d'aujourd'hui, c'est notre volonté commune de faire à nouveau du Sahel un lieu de passage, de culture, d'ouverture, d'échange, ce qu'il est historiquement. Parce que c'est ce que nous devons à l'Afrique et ce que nous nous devons à nous-mêmes. Aujourd'hui, le Sahel, parce que nous avons manqué par le passé des efforts en termes de sécurité et de développement, est devenu une terre où se sont multipliés les trafics d'êtres humains, de drogue, d'armes qui nourrissent ce terrorisme.
Des propos recueillis par Élise Delève à propos de terrorisme au Nigeria, 4 jours après l'attaque d'une école au nord-est du pays, à Adachi. Des dizaines de jeunes filles sont toujours portées disparues. La police parle de 111 élèves, probablement enlevés par le groupe djihadiste Boko Haram, comme à Chibok il y a presque 4 ans, quand le rapt de 276 adolescentes avait provoqué l'indignation mondiale. Pour les familles de Adachi, les autorités n'ont pas fait le nécessaire pour les protéger, contrairement aux promesses du président Buhari. Claude Guibal.
Oui, et c'est bien la colère de ces familles qui a obligé les autorités nigérianes à sortir de cette confusion. Des familles à qui l'armée avait d'abord affirmé que leurs enfants avaient été sauvés. Or, elles ont déjà disparu depuis lundi. Ces jeunes filles, on ne sait même pas leur nombre exact. Lorsque leur internat a été attaqué dans la nuit, tous les occupants ont tenté de fuir pour échapper aux djihadistes. Des témoins disent avoir vu des filles emmenées en hurlant dans des camions. Alors, même si l'attaque n'a pas été revendiquée, difficile bien sûr de ne pas faire le lien, comme vous l'avez fait avec Boko Haram. Et cela laisse imaginer la colère, vous le disiez, donc de ces familles, de ces Nigériens, à qui le président Buhari avait pourtant promis lors de son élection en 2015 de mettre fin à Boko Haram. Alors certes, le groupe a perdu du terrain, mais son chef, Aboubakar Shekau, régulièrement annoncé comme mort, est apparu dans une vidéo le mois dernier. Et ça, c'est une façon de prouver que le groupe existe toujours et qu'il reste menaçant au moment où il est concurrencé par le pouvoir attractif d'Al-Qaïda qui ne cesse de gagner en puissance dans le Sahel.
Rappelons qu'après l'enlèvement de Chibok, 57 lycéennes étaient parvenues à s'enfuir rapidement. Une centaine d'autres avaient pu s'évader ou avaient été libérées ensuite par Boko Haram après négociation. Retour à Bruxelles où après la rencontre sur le G5 Sahel, d'autres négociations attendent Emmanuel Macron au sommet des 27. Beaucoup plus difficile celle-là. Le président français voudrait faire avancer la construction européenne, pousser l'intégration franco-allemande et changer le paysage politique au Parlement de Strasbourg comme il l'a fait à l'Assemblée nationale à Paris. Une gageure, Quentin Dickinson.
En effet, convaincre les Français des bienfaits de l'Europe, c'est une chose. Entraîner les gouvernements des 26 autres pays de l'UE dans son sillage réformateur des institutions européennes, c'est un défi au moins aussi complexe. Et la première difficulté, c'est le lien entre le choix du prochain président de la Commission européenne et le résultat des élections européennes du printemps 2019. Selon les textes, ce sont les chefs d'État et de gouvernement qui nomment ce haut responsable, mais est-il précisé de manière délibérément floue en tenant compte du résultat des élections au Parlement européen ? Cette disposition a permis, lors du dernier renouvellement en 2014, d'organiser des primaires par famille politique transnationale, lesquelles ont sacré Martin Schulz au centre-gauche et Jean-Claude Juncker au centre-droit. C'est ce dernier qui l'a emporté parce que c'est son groupe qui a remporté le plus grand nombre de sièges au Parlement européen. Mais aujourd'hui, une dizaine de pays sont à des degrés divers opposés à la reconduction d'un système qui dépouille les gouvernements d'une partie de leur pouvoir. Sur cette question, parmi bien d'autres, Emmanuel Macron est attendu au pied du mur cet après-midi par ses homologues.
Quentin Dickinson à Bruxelles, Emmanuel Macron qui a déjà vendu aux Européens l'organisation de débats citoyens du mois d'avril prochain jusqu'en septembre dans les entreprises entreprises, les associations. Toutes les initiatives seront les bienvenues, appuyées bien sûr par des campagnes de communication pour bien préparer l'élection européenne de mai 2019. À propos d'Europe toujours, on a vu ces derniers jours l'inquiétude des agriculteurs sur les pays du Mercosur, le marché commun sud-américain. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Dans votre rendez-vous du vendredi 13h sur le vrai faux de l'Europe, vous revenez sur ce sujet.
Oui, à la veille du salon de l'agriculture, les éleveurs sont très inquiets des conséquences de ces accords de libre-échange. Après le CETA, l'accord avec le Canada, l'Union européenne négocie donc avec 4 pays, Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay, des accords qui mettent en péril les éleveurs européens. C'est en tout cas ce que dénonce le président de la Fédération nationale bovine, Bruno Dufayet.
On a déjà un premier accord qui a été signé avec le Canada. Là, c'est un deuxième accord avec les pays du Mercosur. Donc au total, les deux, ce serait entre 135 et 165 000 tonnes de viande qui rentreraient sur le marché européen. L'impact que ça aurait sur les prix, c'est qu'on aurait 30 000 exploitations, 30 000 éleveurs français qui disparaîtraient.
Alors 30 000 éleveurs européens menacés par le CETA et le futur accord Mercosur, vrai ou faux ?
Le chiffre est faux, même s'il y aura certainement un impact pour les éleveurs français. L'étude citée par Bruno Dufayet, c'est une étude de l'Institut de l'élevage. Le problème, c'est qu'elle ne concerne pas du tout les 4 pays du Mercosur. Il s'agit d'une étude un peu ancienne qui chiffre l'impact du CETA et celui du TAFTA. Vous savez, le traité avec les États-Unis qui a créé une grosse polémique, un traité au congélateur depuis l'arrivée de Donald Trump. Selon les experts de cet institut de l'élevage, impossible de comparer les deux situations. Les exportations nord-américaines sont presque 2 fois plus élevées que celles du marché commun sud-américain. Si je résume, le chiffre de 30 000 éleveurs français menacés est donc faux.
Alors quel impact ce nouveau traité Mercosur aurait-il pour nos éleveurs ?
À ce stade, c'est assez difficile à dire car l'accord n'est pas signé, mais les négociateurs européens et sud-américains sont très clairement dans la dernière ligne droite et les droits de douane sur les viandes de bœuf font partie des derniers points à arbitrer. Actuellement, l'Europe importe déjà près de 200 000 tonnes de viande de bœuf du Mercosur chaque année, de la viande très taxée. Les droits de douane sont de 85%. L'idée, c'est de lever ces barrières en partie. En échange de quoi, les Européens demandent au Brésil ou à l'Uruguay d'être plus ouverts à leurs exportations de lait et de pièces automobiles. La viande sud-américaine, déjà très bon marché, et ça laisse craindre à nos éleveurs qu'ils auront du mal à faire face à cette nouvelle donne.
Alors ce qu'on remarque en tout cas, c'est que ces accords de libre-échange ont tendance à se multiplier.
Oui, l'Europe négocie tous azimuts en ce moment. La Commission vient de conclure un accord avec le Japon, le plus gros à ce jour. Elle discute avec le Mexique, le Chili, bientôt l'Australie et la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, mais aussi l'Inde. Objectif, doper les volumes des échanges, concurrencer les principales puissances économiques. L'Europe aura un accès privilégié au Mercosur que n'auront ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon. Restent tout de même les inquiétudes du côté des citoyens sur la remise en cause des normes environnementales en Europe, le recul du pouvoir des États au profit des multinationales et surtout les craintes pour nos agriculteurs.
Le vrai faux de l'Europe avec Delphine Simon.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
Un accord sur l'assurance chômage, mais quel accord ? Syndicats et patronats ont enfin trouvé un terrain d'entente hier soir sous la pression du gouvernement qui menaçait de prendre la main. Le texte de 15 pages ouvre les droits au chômage pour les démissionnaires en nombre limité et prévoit un diagnostic sur l'usage des contrats courts. Pas encore un vrai bonus-malus que voudraient mettre en place les syndicats. Bref, une réforme à minima qui n'a d'ailleurs pas été signée. Les partenaires sociaux veulent attendre que le gouvernement valide cet accord, qu'il pourrait d'ailleurs ne pas reprendre dans sa totalité, Laurent Kramer, presque un coup pour rien.
Oui, cet accord ne remplit pas en tout cas le cahier des charges d'une assurance chômage universelle telle que souhaitée et promis par Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Les partenaires sociaux estiment pourtant de leur côté avoir fait le maximum pour ouvrir de nouveaux droits chômage aux démissionnaires, mais avec les contraintes budgétaires serrées des comptes de l'UNEDIC, ce nouveau droit resterait limité à 10 000 salariés démissionnaires chaque année, bien loin de la promesse d'une assurance chômage universelle. Patronat et syndicats n'ont pas souhaité non plus, faute de ressources financières, ouvrir de nouveaux droits au chômage pour les travailleurs indépendants, explique Michel Boga à Force Ouvrière.
C'est un accord avec un équilibre global, mais qui est quand même à minima. En fait, c'est pas le bel et grand accord qu'on aurait pu attendre de cette négociation.
Le gouvernement a donc désormais tout loisir d'écrire une loi qui ressemblera davantage aux promesses d'Emmanuel Macron et de transformer également au passage les règles de l'assurance chômage, ce qui inquiète et ce que dénoncent les syndicats. À chacun sa part du contrat, a précisé ce matin la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.
Sur l'assurance chômage, les partenaires sociaux font une négociation, puis ensuite c'est la responsabilité, ça c'est le rôle des partenaires sociaux. Puis après il y a une autre responsabilité qui est complémentaire, c'est celle du gouvernement et du Parlement, de dire la loi, de faire la loi.
Dans les tiroirs du gouvernement donc, cette possibilité d'ouvrir et d'élargir les droits au chômage davantage de bénéficiaires, notamment aux travailleurs indépendants, mais sous la forme d'un forfait limité dans le temps, ce que les partenaires sociaux décrivent comme une assurance chômage au rabais.
Laurent Kramer, il n'y avait personne au rendez-vous du secrétaire d'État ce matin à Bure dans la Meuse, au lendemain de l'évacuation de la ZAD. Les opposants au projet d'enfouissement des déchets nucléaires ont boycotté la rencontre avec Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition écologique, que seuls quelques élus locaux ont accueilli, mais surtout, Jérôme Jadot, pas sûr que la situation dans le bois Le Juc, évacué par les gendarmes, soit complètement réglée.
Ils sont perchés dans des nacelles ou sur des plateformes en haut des arbres dans différents endroits du bois. Selon les opposants au projet d'enfouissement, au moins une dizaine de militants sont actuellement sur le site, revenus après l'évacuation ou même présents pendant, assure Sylvain, un des contestataires.
Ils vont bien, je crois qu'ils n'ont pas été encore trouvés par les forces de l'ordre. Ils boivent du thé dans des thermos, ils profitent de la vie en forêt, une vie en forêt qui risque d'être détruite à jamais pour imposer ce projet fou de poubelle nucléaire. On dénonce en fait une mascarade qui visait à dire que l'expulsion était terminée, que le problème de Bure était réglé. C'est faux en fait.
Joint au téléphone, un militant nous a confirmé être revenu dans le bois cette nuit en contournant le dispositif sécuritaire. Selon la gendarmerie, seulement deux occupants sont en ce moment perchés et vont être ramenés au sol en toute sécurité. En visite éclair à Bure, ce matin, le secrétaire d'État à la transition écologique, Sébastien Lecornu, estime que ça ne remet pas en cause l'opération d'hier.
L'opération d'hier matin n'était pas une opération symbolique, c'était une opération pour empêcher la constitution d'une ZAD. C'est-à-dire que si nous n'avions rien fait hier matin, des constructions en dur se seraient effectuées au long du mois de mars et du mois d'avril. Que des opposants, après deux personnes, rentrent dans un bois, montent dans un arbre, on ne va pas en faire un fromage.
Peut-être pas un fromage, mais une épine dans le pied des autorités qui prévoient de laisser en permanence sur place une unité de gendarmes mobiles afin d'éviter ce genre de réinstallation.
Jérôme Jadot à Bure avec Jérémy Thuil. Avant de retourner au JO, encore une idée admise, remise en cause par la science. On croyait trouver au Kazakhstan l'ancêtre de nos chevaux actuels, dans la région où le premier cheval avait été domestiqué il y a plus de 5000 ans. Mais patatras, une équipe de chercheurs du CNRS et de l'Université de Toulouse, après avoir séquencé le génome, a découvert aux surprises que ce n'était pas le cas, Sophie Bécherel.
C'est à Botaï que l'homme domestique pour la première fois le cheval. Du moins le croyait-on jusque-là, car c'est au Kazakhstan qu'on trouve les premières traces de boissons faites à base de lait de jument, des traces d'enclos et même des traces de mort sur les dents des équidés. Ce que démontre Ludovic Orlando, paléogénéticien au CNRS, par comparaison de génome, c'est que cette idée admise était fausse. Botaï n'est pas l'ancêtre des chevaux domestiques actuels. Deuxième surprise, il est parent avec le cheval de Przewalski, un cheval qu'on disait sauvage.
La surprise pour nous a été de constater que ce qu'on pensé être le berceau de l'origine du cheval domestique, en fait s'avérait être le plus proche parent, l'ancêtre le plus récent, si vous voulez, de ce qu'on appelle aujourd'hui, et c'est là tout le paradoxe, les chevaux sauvages.
Przewalski a donc été domestiqué, puis est retourné à l'état sauvage parce que l'homme a cessé d'interagir avec lui. Si Botaï n'est pas l'ancêtre des chevaux actuels, qui est-ce ?
Il faut se rendre compte que le cheval, ça fait 5500 ans qu'on interagit avec lui dans une relation domestique. À d'autres chevals se sont construits des empires aussi immenses que celui de Gengis Khan, se sont construits l'empire d'Alexandre le Grand. Bref, l'histoire telle qu'on la connaît avec un grand H, c'est une histoire de l'interaction entre l'homme et le cheval. Donc c'est très très rare de penser que quelque chose d'aussi important pour notre histoire est finalement si peu compris en fait.
Les recherches vont donc reprendre dans quatre autres zones géographiques, le nord de la Caspienne, l'Anatolie, la péninsule ibérique et l'ensemble Roumanie-Hongrie.
Jeux Olympiques d'hiver 2018 sur France Inter.
On espérait une nouvelle médaille pour les Français en biathlon, notamment pour Martin Fourcade, qui nous avait trop bien habitués. Les Français n'étaient pas favoris du relais masculin ce matin, et de fait, Richard, Vivion, ils ne seront pas sur le podium.
Ah non, c'est désormais une certitude, hein. Il n'y aura pas d'équipe tricolore sur ce podium du relais masculin, puisque là les meilleurs vont aborder leur dernier tir, le tir debout, et c'est la Suède et la Norvège qui sont au coude à coude, avec vont arriver tous les deux ensemble sur le pas de tir. Il leur restera à 3 km derrière pour savoir de qui, de la Suède ou de la Norvège, va décrocher cette médaille d'or, puisque derrière il y a un trou déjà fait avec l'Allemagne qui pointe à 1 minute. La France est beaucoup plus loin. C'est un relais catastrophique pour les tricolores, avec de nombreuses fautes au tir. On a vu Martin Fourcade, lui aussi, qui était en position de troisième relayeur, eh bien commettre 5 erreurs sur son tir, sur ses différents tirs, tir debout et tir couché. La France qui pointait il y a quelques instants en 7e position avec plus de 2 minutes de retard. Donc on voit aussi un Martin Fourcade, le visage vraiment marqué, déçu. On nous l'avait annoncé malade. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne gagnera pas de 4e médaille sur ces Jeux Olympiques. Il n'y aura pas non plus ce soir de 16e médaille pour la délégation française.
Ça ne peut pas sourire à tous les coups. Il y a beaucoup d'ambiance en tout cas. Richard Vivion à Pyeongchang avec Eric Audra. Ce matin, la Russe Alina Zagitova a offert sa première médaille d'or à la Russie sous bannière olympique. C'est du patinage artistique. Et puis en ce moment même, également se disputent les demi-finales du curling féminin, un sport qui ne passionne pas les foules ici, mais fait l'objet d'une ferveur assez inattendue en Corée du Sud. En tout cas, depuis que les Coréennes ont fini en tête des qualifications, leur capitaine est devenu une véritable star, Frédéric Ojardias.
C'est un cri qui fait hurler de rire l'internet coréen, celui de Kim Eun-jang, la capitaine de l'équipe coréenne de curling, ordonnant à ses coéquipières de brosser la glace à toute vitesse à chacun de ses lancers. Cette équipe venue de nulle part crée la sensation. Elle est composée de 5 joueuses qui ont toutes le même nom, Kim, et qui viennent du même village perdu de la campagne coréenne réputée pour sa production d'ail. Le curling est très peu connu en Corée et l'équipe a longtemps dû payer de sa poche ses équipes et son entraînement, mais à la surprise générale, elle a battu à Pyeongchang les meilleures équipes comme le Canada ou la Suisse. Les joueuses coréennes enflamment les patinoires, leurs lancers de pierre les plus astucieux font chavirer les gradins, tandis que le regard d'acier de la capitaine, imperturbable quelle que soit la situation, suscite d'innombrables délires sur le net. Quant aux télévisions coréennes, elles diffusent à présent du curling à longueur de journée. La demi-finale a lieu dans quelques heures face au Japon, devant tout un pays entièrement acquis à la cause du curling. Séoul, Frédéric Ojardias, RFI pour France Inter.
Voilà, le curling auquel les Français préféreront toujours la pétanque. Allez, c'est encore le film français le plus vu en salle. Bienvenue chez les Ch'tis, sorti en février 2008, fête aujourd'hui son 10e anniversaire. Le premier long métrage de Danny Boone, tourné en grande partie dans le Nord, à Berg, avait d'abord été montré dans la région où le bouche à oreille avait bien fonctionné. Quelques mois plus tard, il dépassait les 20 millions d'entrées. Et parmi les fans absolus du film, Laurent Dupuis, habitant de Dainville, près d'Arras, il était allé le voir 21 fois. Hélène Fromenty l'a rencontré.
C'est bien sûr dans un cinéma lillois que Laurent me donne rendez-vous. C'est ici qu'en 2008, il a passé au total une journée, 13 heures et 6 minutes très précisément, à rire devant Bienvenue chez les Ch'tis.
À l'époque, je l'avais vu donc 21 fois en salle. J'avais tous les billets.
Beaucoup de temps, mais heureusement peu d'argent, car il a une carte illimitée. Et à chaque fois, le même plaisir, se souvient-il.
La simplicité, pas de vulgarité, une belle histoire, du rire, tout simplement.
Ah, les siens, pas les chiens.
Ouais, les chiens, c'est chaud.
Les chiens, les chats, putain, mais tout le monde parle comme vous ici.
Depuis, il l'a revu chez lui, en DVD ou à la télé, mais ce n'est plus pareil.
À la maison, vous êtes seul ou mettons à 2 ou 3 à regarder, vous n'êtes pas 500. Ce qui est drôle, c'est une salle qui s'exclame tout en même temps.
Bravo, Biloute.
Ça veut dire quoi, Biloute?
Je veux dire petite quéquette.
Quand il n'y a personne dans une salle, c'est pas aussi bien.
Et une décennie après, il en est persuadé, ce film a servi le Nord-Pas-de-Calais.
L'image d'accueil surtout, même s'il y avait quelques moqueries, mais qui était sympathique.
Alors bien sûr, Laurent a déjà vu La Ch'tite Famille, le dernier long métrage de Danny Boone qui sort aujourd'hui dans la région.
Il y a moins de rires nourris que dans Les Ch'tis, mais il a joué beaucoup plus sur les sentiments familiaux, et ça c'est magnifique.
D'après lui, ce nouveau film fera un bon score, même s'il ne devrait pas dépasser Les Ch'tis. Mais promis, ajoute-t-il, celui-ci, je n'irai pas le voir 21 fois.
La Ch'tite Famille ou Bienvenue chez Les Ch'tis, le retour en avant-première donc ce soir dans le Nord et à l'affiche partout en France mercredi prochain.
La météo avec Région de Job. Souriez, des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous sur regionjob.com.
un temps froid, sec et ensoleillé, Jean-Pierre Hameau.
Un puissant anticyclone s'étirant des îles britanniques à la Russie marque le retour d'un temps froid, sec et ensoleillé sur la plupart de nos régions. Dans le même temps, une dépression méditerranéenne organise des remontées nuageuses et instables de la Corse à l'est de la région PACA. Ces nuages apporteront de la neige à partir de 800 mètres sur la montagne Corse et des averses de pluie en Provence. La bise va souffler jusqu'à 40 ou 50 km par heure dans la moitié nord du pays, renforçant très nettement la sensation de froid. Et attention, le risque d'avalanche reste marqué dans les Alpes. Les températures maximales cet après-midi et sous abri afficheront 2 à 5 degrés sur un grand quart nord-est. Ne comptez pas plus de 4 degrés dans la capitale par exemple. On attend 6 à 8 degrés ailleurs et jusqu'à 12 degrés autour de la Méditerranée.